Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Avant de commencer cette émission, je veux brièvement redire l'esprit de cette émission et d'autre part répondre à une question d'un auditeur. L'esprit de cette émission sur Agora Côte d'Azur depuis 5 ans déjà est de garder le cap entre le local, le national et l'international. L'esprit de cette émission est dans un monde incertain, complexe, envahi de doutes et d'insécurité, de proposer des apports positifs, des renaissances bien plus nombreuses que nous ne pensons et souvent proches de nous, qui annoncent un monde nouveau. Dans ce double esprit, le programme jusqu'à la fin juin est particulièrement chargé. Voici quelques repères. En avril, le 28, nous ferons une émission sur l'avenir se joue en Afrique, avec des experts et aussi avec des gens de la région qui participent à des coopérations tout à fait originales avec l'Afrique. Et nous rendrons hommage à Conakry, encore une fois, choisi par l'UNESCO comme capitale mondiale du livre en 2007. Au mois de mai, nous aurons les émissions suivantes. Le vendredi 26, nous reviendrons sur le Pays de Grâce historique. Notre première émission a eu beaucoup d'écho et nous reviendrons sur ce canton de Fayence, sur des villages comme Tourette dans le Var, Calian, très peu connu, chargé d'histoire, chargé de littérature, chargé de penseurs. Vous verrez, vous ne serez pas surpris. Ça sera une grande découverte. Le lundi 29, ce sera comme thème l'écriture dans un lycée. Une expérience pleine de promesses, des jeunes en écriture auront la parole. Le 30, nous ferons un petit voyage en Italie pour découvrir dans un pays si proche des écrivains, des auteurs, des éditeurs que nous ne connaissons pas. Et puis, le 31, ça sera Renaissance et Partage en région PACA, des éditeurs, des libraires, des auteurs qui se seront réunis quelques jours avant dans cette région. Nous parlerons des actions concrètes qu'ils font pour la renaissance de l'écrit, par l'écrit et pour l'écrit. Au mois de juin, nous aurons 3 émissions, dont une avec Edgar Morin sur les nouvelles humanités. Edgar Morin dit « Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est la constitution de nouvelles humanités sur la base de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est l'histoire de l'homme, en gros, complexe, qui conçoit l'homme à la fois comme être individuel, social, biologique et physique. Ceci se fera directement et de façon inédite avec Edgar Morin. Nous aurons un entretien avec Alain Corbin, cet homme qui vient de sortir une histoire du silence absolument extraordinaire et qui avant avait écrit une histoire des émotions. Et enfin, nous donnerons carte blanche à Jean-Claude Broutard, ancien chirurgien, auteur de la mémothérapie pour la maladie d'Alzheimer et considéré comme l'un des chercheurs majeurs des Alpes-Maritimes actuellement. C'est aussi un grand humaniste et il est le premier invité de carte blanche qui aura lieu désormais une fois par an. Et puis enfin, j'espère vous réserver une surprise avec Bernard Pivot, mais je vous en parlerai au mois d'avril. Pour ce soir, notre thème, c'est décadence et renaissance. Ce thème, c'est le thème de la triade de paroles d'écriture qui aura lieu désormais tous les ans, 3 fois de suite, c'est-à-dire ce soir, mercredi 29 et le vendredi 31 mars. Pourquoi décadence d'abord? En référence au livre de Michel Auffray, qui est paru en janvier et dont la presse a beaucoup parlé en janvier, février, un peu moins en mars. C'est un livre de plus de 650 pages, donc, chers auditeurs, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous le liront, mais vous trouverez sur Google beaucoup de synthèses, beaucoup de notes, commentaires. Il a suscité des avis favorables, des avis très favorables. Nous reprendrons ce thème de décadence, mais nous l'élargirons avec le thème de la renaissance. Pour ce faire, ces triades, c'est-à-dire 3 émissions, feront appel à 3 invités. Ce soir, Agnès Besson, philosophe, est chargée de cours à l'Université de Nice en anthropologie et en philosophie. Mercredi soir, nous aurons Michael Las, qui est maire de Corrence, le premier village bio en France qui se trouve dans le Var. Michael fait son 4e mandat de maire, il a décidé de ne pas continuer, mais son engagement international va s'accentuer. C'est ainsi qu'il fait en mai prochain les premiers entretiens de Corrence, les 19 et 18 mai, 18 et 19 mai, pour rassembler différents acteurs d'initiatives réussies du développement durable et de s'inspirer pour favoriser de nouvelles initiatives. Nous serons présents et nous vous parlerons de ces rencontres qui incontestablement vont réunir des participants venant de France et de l'étranger. Vendredi soir, nous accueillerons Denis Priant, fondateur et directeur des éditions de l'Harmattan à Paris. Ses responsabilités, ses implantations en Europe, en Afrique 9 pays ont une antenne des éditions L'Harmattan en Afrique. Le nombre de ses publications chaque mois font de lui un témoin privilégié de notre monde. Trois regards. Un regard de chercheur, un regard de merde, de personne responsable au cœur de la société, et un regard d'un directeur d'édition qui voit passer des centaines de manuscrits chaque année et qui publie, il vous donnera les chiffres lui-même. C'est vraiment très impressionnant. Le monde n'est plus ce qu'il était. Qui n'a pas entendu ce commentaire? Peut-être qui ne l'a pas prononcé. Plus, décadence, déclin, déchéance, décomposition. Qu'en est-il exactement? Et des renaissances, pourquoi on en parle si peu? Une bibliographie de synthèse avec ces trois émissions sera sur le site, encore une fois, www.reliant-r-culture-éducation-singulier.com/. Mais pour ce soir, commençons par écouter notre première invitée, Agnès. Bonjour Agnès.
Bonjour Michel.
Merci de votre présence dans cette première triade centrée sur décadence et renaissance. Vous êtes philosophe, chargé de cours à l'Université de Nice, en philosophie et en anthropologie. Votre travail vous confère un poste d'observation majeur pour notre monde et plus précisément pour notre pays. Le thème de la décadence a été choisi en particulier en référence au livre de Michel Onfray. Je vous l'avoue, Agnès, je ne l'ai pas tout lu, je n'ai pas eu le temps, et ce livre de 750 pages est énorme, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais j'ai lu beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques, et comme ce livre est paru en janvier, nous ne pouvons pas aborder le thème de la décadence sans parler de cet ouvrage. Alors, ma première question serait celle-ci, Agnès. Vous, j'imagine que vous l'avez peut-être pas lu en entier aussi, et c'est secondaire. Vous l'avez incontestablement travaillé. Quelle est, en tant que philosophe, et j'allais dire anthropologue, votre lecture de ce livre et de ce thème de la décadence vu par Michel Onfray?
Alors, oui, effectivement, par souci d'honnêteté, je dois reconnaître que je n'en ai pas fait une lecture circonstanciée. J'ai essayé de comprendre le fil directeur, ce qui présidait en fait à ce très très loin, cette très très longue somme en fait. Alors, je dirais qu'on pourrait parler de somme dans un registre un peu amélioratif, mais de pensum si on était un peu plus cruel, hein, parce que c'est vraiment un opus très très volumineux et qui est assez décourageant quelque part. Enfin, ce qu'on perçoit, c'est une très très grande érudition, ça c'est incontestable, un nombre de références qui peuvent forcer l'admiration bien sûr, mais qui en même temps moi personnellement me laisse un peu pantoise, parce que je ne sais pas comment la pensée peut assimiler autant de références et les faire tenir ensemble. Et je pense qu'il y a quelque part, chez Onfray, dans cet opus en tout cas, ce qui était vraisemblablement moins le cas dans Cosmos, une volonté totalisante. Hein, il va au pas de charge, hein, vraiment, dans un registre tout de même très polémique, quoi qu'il s'en défende, puisqu'il ne cesse de dire tout au long de l'ouvrage qu'il porte un regard juste, distancié, sans affect, enfin, il revendique la neutralité. Alors il dit même, et il le dit à plusieurs reprises dans les interviews, parce qu'il a été abondamment interviewé au moment de la parution de l'ouvrage, il dit même qu'il il exerce un regard médical en quelque sorte, le regard qu'exerce le médecin ou l'anatomiste sur le corps qu'il ausculte. Voilà. Donc c'est un ouvrage vraiment, effectivement, difficile d'abord. Et je le dis encore une fois, mais je n'ai pas eu le courage de l'affronter véritablement. Voilà. Bon, c'est vrai que c'était en plein dans mon semestre universitaire, j'avais beaucoup de travaux en cours. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose de décourageant chez Onfray pour moi maintenant. Voilà, dans cette manière qu'il a de vouloir produire, je crois que c'est vraiment, ça finit par être à mon sens, une erreur méthodologique, une visée totalisante. Et surtout, j'aurais envie de dire que Onfray s'est toujours revendiqué comme étant un disciple de Nietzsche. Et je ne vois pas bien comment il peut faire coexister à la fois cette filiation nietzschéenne et cette volonté de faire système. Hein. Et on peut remarquer tout de même, Michel, qu'il s'agit là, hein, si je reprends ces mots, enfin, c'est clairement indiqué en sous-titre, et qu'il s'agit là d'une brève encyclopédie du monde. Hein.
C'est quand absolument.
Ça n'est quand même pas rien.
En trois ouvrages, Cosmos qui est déjà paru, Décadence, et il nous annonce Sagesse.
Absolument. Donc un rythme ternaire et hegelien du coup pour moi.
Hegelien,
il est plus du côté de Hegel que de Nietzsche. Voilà, pour en guise d'introduction.
D'accord. Alors, plus précisément, en ayant exploré cet ouvrage, j'allais dire, quelles sont vos préventions ?
Alors, mes préventions, elles sont anciennes à l'égard d'Onfray. Et je crois que je ne suis pas la seule. J'ai l'impression qu'on est très, très nombreux à avoir le sentiment d'avoir perdu Onfray en cours de route. Moi, j'ai découvert Onfray, pour rappeler un souvenir personnel. Lorsque j'étais étudiante, je devais être en licence de philosophie. C'est ça, 88-89 de mémoire. Lorsqu'il a fait paraître un de ses premiers petits ouvrages, enfin, pas si petit que ça d'ailleurs, mais intitulé « Le ventre des philosophes », où il était question de raison diététique. Et j'avoue qu'à l'époque, mais comme beaucoup, j'étais très très séduite par la fraîcheur de sa pensée. Voilà, ça apportait à nous qui suions tant et plus sur Hegel, sur Platon, sur Kant, etc. Nous étions très dociles dans notre lecture. Là, tout à coup, on ouvrait les fenêtres, on laissait entrer un grand vent d'air frais. Et puis, il y avait une volonté très subversive, complètement assumée de la part d'Onfray. Et à l'époque, il y avait une légèreté dans son propos. Enfin, ça ne voulait pas dire que le propos n'était pas, n'avait pas une profondeur. Mais il y avait dans le style, dans la manière, quelque chose d'une légèreté revendiquée. Et là, je pense qu'il était véritablement Nietzschéen, d'ailleurs. Et alors, évidemment, à l'époque, on s'est régalé des pages consacrées à Kant, des pages consacrées à Rousseau, etc., etc. Et j'ai relu, d'ailleurs, il y a quelque temps, « Ce ventre des philosophes », et je me suis dit, mais tout était déjà là, parce que il peut faire montre d'une, enfin, il y fait montre déjà d'une totale mauvaise foi, et c'est vrai qu'il a des paroles terribles, aussi bien sur Rousseau que sur Kant et sur d'autres. Voilà. Et des choses qui ne l'ont pas quitté, d'ailleurs, depuis, parce qu'il a des thèmes obsédants, Onfray, mais qui, dans sa bouche, maintenant, en tout cas, et sous sa plume, prennent une tournure beaucoup plus pesante. Par exemple, Rousseau, le totalitarisme rousseauiste, etc., etc. Bon. Il accrédite une thèse qui, à mon avis, est vraiment, vraiment extrêmement discutable, selon laquelle Rousseau aurait inspiré tous les totalitarismes, alors le totalitarisme révolutionnaire, jacobin, etc., mais bien au-delà, le totalitarisme bolchevique, le totalitarisme nazi, même les Khmer rouges, etc., etc. Donc voilà, ça c'est Onfray, et ça, pour moi, ça a beaucoup nourri les préventions que j'ai à son égard depuis un certain temps, voire depuis plusieurs années, et malheureusement dans mon entourage, je ne suis pas la seule, on est nombreux à avoir le sentiment qu'Onfray nous a trahis et s'est trahi lui-même en quelque sorte. Voilà. Et donc du coup Décadence, eh bien, à mon avis, en grande partie reprend ces travers-là, enfin les amplifie, et surtout en donnant à sa pensée une nature très systématique. C'est le sentiment qu'on a en lisant cet ouvrage. Et voilà, il y a une espèce de système, il y va, et puis il n'y a jamais de... Je trouve que c'est une pensée qui n'est pas habitée par le doute, qui n'est pas habitée par la contradiction, qui n'est pas habitée par un mouvement dialectique. Donc, c'est un procès à charge du judéo-christianisme, enfin, du christianisme d'ailleurs, plus que du judéo-christianisme, du début jusqu'à la fin. Et puis voilà, et puis le christianisme est coupable de son histoire, de notre présent, et en plus, il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'ouverture possible.
Alors ça, Agnès, nous allons rentrer tout à l'heure dans l'ouvrage, dans ce qu'il dit, mais là, vous venez de brosser votre perception de Michel Onfray. Vous avez choisi une musique pour que l'on puisse faire une petite pause et nous allons reprendre tout à l'heure la discussion. Mmh. Quelle est la musique que vous avez choisie ?
Ah ben, écoutez, j'ai choisi le registre de la déploration, puisque nous sommes dans ce registre-là, avec des cadences. Encore que, Onfray évoque un sens du tragique. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui, à mon sens, exprime au mieux ce sens magnifique du tragique. Et pour le coup, c'est Monteverdi. Et là, je crois qu'on démarre avec le Lamento della Ninfa, le Lamento de la nymphe. Un petit extrait.
Alors écoutons ce Lamento.
Merci.
Spesso li veri assolto un grano.
Alors sur ce thème de la décadence, de la déploration, comme dit Agnès, nous allons poursuivre dans la deuxième partie notre entretien avec Agnès, et surtout en référence au livre de Michel Onfray. Ce soir, c'est une lecture, disons, intellectuelle, un peu sévère de notre monde qu'il fallait entendre. Mercredi, nous écouterons quelqu'un du terrain, Michel Lasse, qui est une toute autre lecture, beaucoup plus portée sur les Renaissances, mais il nous faut, dans un premier temps, poursuivre et approfondir ce thème de la Renaissance avec une lecture critique, comme le fait Agnès. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, après les informations, et je vous propose, en attendant, de réécouter cette musique qui, à mon avis, est très porteuse de la déploration, peut-être aussi de notre monde. Alors, à tout à l'heure, après les informations. Continuons ce soir, pour cette première émission des triades de paroles d'écriture, notre réflexion avec Agnès, plus centrée sur Décadence, le livre d'Offray, et sur ce thème de la décadence. Continuons Agnès, et si vous voulez bien, nous allons commencer par parler du titre, Décadence. Ce titre, chez moi, ça résonne dans une perspective de Valéry, mais bien plus de Stengler avec son déclin de l'Occident. Qu'en pensez-vous ?
Oui, il est vrai que le choix du titre n'est évidemment pas neutre et je suis très surprise parce que, en différentes interviews, finalement, Onfray ne se justifie pas vraiment, véritablement, de ce titre. Enfin, il le minimise presque. Alors moi, j'y vois, me semble-t-il tout de même, un effet de marketing éditorial aussi. C'est évident que c'est un titre choc. Et puis on a, en jaquette, là, de Jésus à Ben Laden, bon... C'est assez inquiétant, me semble-t-il, pour le débat. On puisse réduire les choses comme ça, enfin, en tout cas.
C'est quasi voyeuriste.
Oui. Là, on est vraiment sur du marketing éditorial, on ne peut pas en douter. Donc, décadence, c'est évidemment un terme extrêmement connoté, qui relève plutôt d'un registre lexical de très très conservateur, de droite, voire de droite extrême. C'est-à-dire que c'est encore plus fort que la notion de déclin, parce que dans l'idée de décadence, il y a quand même une connotation moralisatrice malgré tout. Et alors bizarrement, il n'en fait rien d'ailleurs. Décadence, c'est plutôt quelque chose que l'on déplore, alors qu'Onfray ne cesse de dire j'observe les faits sont là. Mais je ne les déplore pas. Bon. Donc ça me paraît relativement contradictoire. Je trouve qu'il s'explique peu sur le choix de ce titre. Bon, ça c'est une première chose. Par ailleurs, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à plusieurs auteurs dans ce projet qu'il a de montrer en quoi nous sommes en train de vivre la fin du judéo-christianisme, la fin d'une civilisation. Il y a évidemment les propos de Paul Valéry, mais je crois qu'il faut les contextualiser, et je pense que Paul Valéry n'est pas du tout dans la perspective d'Onfray. Paul Valéry, et j'aimerais bien qu'on reprenne la citation le plus exactement possible. La citation de Paul Valéry en 1919, c'est-à-dire au sortir de la Première Guerre mondiale et la suivante, « Nous autres civilisations, savons maintenant que nous sommes mortels. » Et il dit par ailleurs, tout ne s'est pas perdu, mais tout s'est senti périr. Donc tout ne s'est pas perdu. Hein. Mais il y a eu, voilà, ce moment terrible, ce fracas hein, terrible, où là, effectivement, la civilisation a pris conscience de sa fragilité profonde, hein, substantielle. Et il y a aussi, chez Paul Valéry, une sorte de mélancolie hein, des fins du monde. Qu'on peut retrouver chez un auteur comme Gramsci, quand Gramsci, alors cette citation est très très reprise actuellement, et elle est souvent mal à propos, me semble-t-il, reprise, un peu plaquée sur tout et n'importe quoi. Les politiques l'ont beaucoup repris ces derniers mois. Hein, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Hein. Donc, Antonio Gramsci insiste là, effectivement, sur une époque qui serait une époque, on pourrait dire, de nature transitionnelle. Quoi. On a un vieux monde qui se meurt. Hein. Et donc là, on est vraiment dans cette perspective-là avec Paul Valéry. Mais je crois que, en l'occurrence, Onfray est plutôt du côté d'Oswald Spengler avec le déclin de l'Occident. C'est-à-dire que là, chez Spengler, on a donc l'idée en acte, l'idée qu'il y a bien un déclin irrémédiable hein, de l'Occident, mais avec la volonté, alors là, très totalisante, hein, comme chez Onfray, de rendre compte d'une histoire universelle. Hein, une forme d'épopée de la civilisation, avec de la même manière des raccourcis évidents. Hein. L'ouvrage de Spengler a été très, très critiqué pour cela, évidemment. Et puis surtout, ça a eu des effets. Hein. Spengler était un conservateur. Donc il y a la même idée tout à fait revendiquée par Onfray, qui est la suivante, à savoir que la civilisation est constituée hein, de la même manière que tout organisme vivant, et donc qui a un rythme biologique du monde en quelque sorte, et qui veut que voilà une civilisation comme un organisme vivant, comme un corps naît, croît, embellit, prospère, etc. Trouve son acmé et puis décline. Et d'ailleurs Onfray parle dans son ouvrage de sénescence hein, qui précède le déclin, etc., etc. Donc on voit bien cette analogie, et qui est vraiment une analogie que revendique Onfray. Et d'ailleurs, Onfray ne dénie pas cette influence-là hein, de Spengler, pas du tout. Il revendique même en partie cette filiation. Mais il dit, et ça m'a beaucoup amusé, dans une interview qu'il a accordée au Point en janvier, hein, il est très très régulièrement publié par le Point, qui le met très en valeur. Il dit tout de même que Spengler, utilise une grille de lecture systématique, alors que lui aurait une vision plastique et vivante. Hein. Et bizarrement, moi, justement, le sentiment que j'ai, c'est que Onfray a une grille de lecture systématique. Hein. C'est vraiment ce qu'on peut, à l'évidence, lui reprocher, avec des raccourcis quand même très importants quand on se plonge en partie dans le détail du texte. Voilà.
Très bien. Alors, le contenu du livre, maintenant, son contenu, ce qu'il nous dit, en résumé, et avec quelle perspective, où allons-nous avec sa contribution ?
Mais le contenu lui-même, il recense hein, à travers l'histoire le destin du judéo-christianisme, hein, alors à partir du Christ dont il dénie l'existence historique, hein, ça c'est un thème aussi obsédant d'Onfray, et à la limite j'ai envie de dire peu importe, et lui-même le reconnaît, hein, l'existence historique du Christ, alors les spécialistes sont évidemment... essaye de discuter. Enfin, c'est une discussion extrêmement ouverte, hein, l'existence réelle du Christ, peu importe. Mais il y a eu quelqu'un, vraisemblablement, qu'y a-t-il de vrai dans tout ça ? Bon, de réel, pour le coup, pour reprendre le terme d'Onfray. Mais c'est pas tant le problème, c'est plutôt le message christique et son destin. Hein. C'est ça qui est intéressant, évidemment. Alors, donc il part de cette existence qu'il ne dit même pas hypothétique, hein, dont il dit qu'elle est complètement fictive, fantasmatique, hein, du Christ, hein, comme personne historique, comme personnage historique. Il passe à Saint-Paul, bon là il fait le procès de Saint-Paul, en disant que Saint-Paul a inspiré au christianisme, à la fois son universalité, ça, mais on en a fait une religion de la haine du corps, et ça, Onfray l'a beaucoup dit dans ses autres ouvrages, notamment dans son traité de la théologie. Donc, une haine du corps, une haine de la femme, une haine du juif, hein, puisqu'il dit que Saint Paul est coupable d'un antisémitisme primitif, hein, de l'antisémitisme primitif de la religion chrétienne. Voilà. Alors, là encore, je n'ai pas personnellement beaucoup de sympathie pour Saint Paul, mais malgré tout, enfin, quand on se plonge dans les textes, on voit bien qu'il y a là encore beaucoup de complexité, beaucoup de contradictions, qu'il faut resituer Saint Paul dans le projet qui était le sien, dans cette mission qu'il se reconnaissait. Et Saint Paul s'oppose à un polythéisme qui est plus vigoureux qu'on ne pense à l'époque. Hein, tout ça a été très bien analysé déjà par Freud, par exemple. Hein, donc, et il veut inscrire le monothéisme. Voilà, donc ça, Saint Paul. Et puis après, donc je passe un peu rapidement. Onfray arrive à Constantin. Hein, ensuite, alors il en fait une espèce un empereur plus despote, enfin en tout cas qui impose la christianisation de Rome de manière violente, voilà. Bon, et tout cela continue, l'inquisition médiévale, etc. Un mouvement vraiment unilatéral, quoi, une espèce de rouleau compresseur qui passe, et on se dit il serait bien temps qu'Onfray envisage quand même une contre-histoire du christianisme. Il a fait une contre-histoire de la philosophie, montrant que la philosophie était travaillée par des mouvements contradictoires, hein, parfois qui sont minorés, qui sont marginalisés, mais que l'histoire de la pensée, elle n'est pas unanime, elle n'est pas unilatérale. Et là, on aimerait bien que pour le christianisme, il en soit de même. Il serait quand même bien. Alors, de temps en temps, il y a quelques auteurs, hein, l'abbé Mélier, etc. Bon, mais il continue comme cela, et ensuite, il arrive à notre modernité en disant qu'au fond, eh bien, tout ce que la modernité a pu produire de violence est issu également de ce christianisme. Et il finit par faire d'Hitler un catholique, hein, disant que le fait qu'on a assimilé Hitler au paganisme, etc., bon, c'était une fiction, parce qu'il dénonce beaucoup les fictions, hein, au nom d'un réel qu'il prétend lui reconnaître, quoi. Donc voilà, il termine par cette idée que le l'antisémitisme nazi est d'origine chrétienne. Alors, il part du fait que, effectivement, ça c'est indéniable, Hitler aurait mis en avant la référence à certains textes chrétiens. Ça c'est fait, mais ça c'est vrai, mais c'est une instrumentalisation qui, pour autant, ne résume pas l'intégralité du régime nazi, bien au contraire. Et alors, très étrangement, il évoque peu l'usage que les nazis ont fait, par exemple, de l'héritage nietzschéen. Il est hors de question de faire ce très mauvais procès à Nietzsche. Nietzsche est mort en 1900. Et le pauvre n'a rien à voir avec le nazisme, si ce n'est que sa sœur, hein, eh bien, ni plus ni moins, a instrumentalisé des textes de Nietzsche. C'est-à-dire qu'il y a bien une filiation au corps défendant de Nietzsche, hein, il y a bien une filiation entre le nietzschéisme et la pensée hitlériste. Par sa sœur, bien évidemment. Enfin, tout cela a été démontré. Bon, et ben là, en l'occurrence, Onfray est assez silencieux. Donc, je pense que le mauvais procès qu'on fait à Nietzsche, je ne vois pas pourquoi on le ferait, en l'occurrence, au christianisme. Je pense qu'on ne peut pas simplement, parce que c'est quand même toujours un peu l'idée qui en sort. Il est parfois tellement radical, tellement outrancier. Bon, voilà. Hein. Mais là, ça se vend bien. Hein. Ah oui, le scoop, Hitler était catholique, quoi. Voilà. Bon, je pense qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de précautions, et puis même d'un point de vue strictement moral, quoi. Il me semble que la pensée doit se garder. Enfin, bon, bref, voilà. Tout ça pour dire qu'on en arrive donc à notre hyper-modernité, hein, qui est totalement dévoyée, voilà, où le nihilisme a fait son œuvre. Et là, on a une perspective un peu Welbeckienne, hein, lui-même le revendique d'ailleurs, et il termine avec, alors là, il est encore plus prophète, non seulement il nous annonce la fin de notre civilisation, mais il nous en donne les contours et on voit qu'on est promis au transhumanisme, voilà, et à ces monstres. Je partage en l'occurrence sa crainte en partie, hein, à l'égard de ces courants-là qui idolâtrent la technique, etc., de ce que ça peut produire, hein, sur l'humanité. Ça, c'était indéniable. Mais là, on a l'impression qu'on est ligoté, quoi. C'est surtout ça. On n'a aucune marge de manœuvre. La messe est dite, en l'occurrence.
Alors, où est l'ouverture? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui reste? À quoi il nous invite, finalement?
Ah ben, à pas grand-chose, si ce n'est à danser au-dessus de l'abîme. Hein. Il parle d'où l'élégant elle sombrait avec élégance. Voilà. Donc, le naufrage est certain. Contentons-nous, hein, comme ceux qui sur le Titanic, voilà, vivaient leurs dernières heures et dansaient sur le pont, hein, voilà, allons danser sur le pont, dansons dessus de l'abîme. Il ne nous promet rien d'autre, sans quoi il est dans une perspective totalement amorale, hein, pas immorale mais amorale. Et je crois que, enfin, je sais pas, là, il me semble qu'il s'exonère un peu facilement d'une responsabilité qui est importante quand même, là, parce que je trouve que ce discours-là produit des effets politiques dans l'époque que nous vivons, dans l'époque confuse, compliquée, etc. Voilà. Et puis, d'autre part, bah, il nous laisse avec notre ennui, notre dégoût. Comme le dit Françoise Benardel dans une recension de l'ouvrage, dans notre ennui, notre dégoût, dans un paysage de supermarché à la Houellebecq, quoi. Donc voilà, le néant est là, tout autour, et nous absorbe, ni plus ni moins. Donc il n'y a pas de perspective. Si on le suit vraiment, hein, si on le suit de manière conséquente, nous sommes embarqués, il n'y a pas de perspective. Donc,
merci Agnès, vous nous avez beaucoup éclairé sur la contribution de Michel Onfray, à la fois comme auteur et comme son livre « Décadence ». Mais le titre de ces triades, c'est « Décadence et Renaissance ». Donc nous allons, dans les deux prochaines émissions, continuer plus peut-être sur le thème de la Renaissance. Mais vous avez choisi une deuxième musique et nous allons terminer ainsi. Alors votre deuxième musique?
Alors un autre lamento, celui d'Ariana, voilà, toujours de Monteverdi.
Voilà, merci beaucoup Agnès.
Merci à vous.
Voilà, alors avant d'écouter cette musique qui est vraiment aussi très très belle, choisie par Agnès, je tiens à nouveau à la remercier parce que sa contribution est vraiment claire, lucide, argumentée, et elle nous permet de situer le livre de Michel Onfray, Décadence, et sur ce thème de la décadence, de disposer d'une réflexion de qualité. Pour aller plus loin, allez sur Google et vous allez trouver de très nombreux documents, des documents critiques, parfois très sévères, de Michel Onfray, parfois des résumés. Des deux livres que nous avons parlé ce soir, Décadence de Michel Onfray et Le déclin de l'Occident, dont je mentionnerai toutes les références, j'en ajouterai un troisième dans la seconde émission, mercredi soir, Sapiens, un chercheur de 30 ans, vient de sortir un livre impressionnant, très lisible et absolument passionnant sur l'histoire de l'humanité. Alors, je vais vous donner rendez-vous mercredi d'abord, 29, avec le maire de Corrence. Là, c'est un homme de terrain qui va nous parler et nous centrerons notre débat beaucoup plus sur la Renaissance. Nous terminerons vendredi avec Denis Priant, qui est un éditeur exceptionnel en France, qui a des maisons d'édition en Afrique et en Europe. Et la conclusion de cette triade, eh bien, c'est Edgar Morin qui nous la donnera dans la dernière partie de l'émission du vendredi 30. Chers auditeurs, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, un très bon week-end. Ne soyez pas surpris si cette lecture de décadence est un peu dure, difficile à comprendre, mais l'essentiel, c'est de vous rappeler qu'on ne peut pas comprendre le temps présent si on ne le contextualise pas, en partie par rapport au temps long de l'histoire de l'humanité, mais aussi par rapport, parfois, au siècle qui a précédé. Est-ce que nous vivons ensemble, par exemple, en France actuellement, et que nous vivons ensemble? Eh bien, cherchez bien à des explications dans l'histoire du siècle dernier, des deux ou trois siècles qui ont précédé, et plus profondément dans l'histoire de l'humanité. Autrement dit, si vous voulez situer votre vie dans l'histoire, eh bien, réfléchissez, l'histoire est une voie absolument indispensable, elle est simple, elle est passionnante, et j'essaierai de vous donner ce désir accru de l'histoire. Mais pour finir ce soir, écoutons cette deuxième musique, qui est plus aussi une musique pour déplorer ce qui se passe, mais la Renaissance arrive. Bonsoir, chers auditeurs.